prenons la parole de Dieu dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre. Au chapitre 2. La première épître de Pierre au chapitre 2, à partir du verset 1er. La Bible nous dit, « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Amen. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, si nous avons connu que Dieu est bon, la Bible nous demande alors de nous écarter, de nous séparer de tout ce qui est mal, de tout ce qui est contraire à l'Évangile, de tout ce qui est en abomination à la volonté de Dieu. Si nous avons connu que Dieu est bon, alors manifestons un comportement, manifestons un témoignage qui prouvera que réellement nous avons goûté que Dieu est bon. On ne nous a pas dit si vous avez mangé et que vous avez trouvé Dieu bon, non. Si vous avez goûté. Et lorsqu'on dit goûter, bien aimé, lorsqu'on goûte un plat, c'est un petit morceau, c'est une petite portion que l'on prend avant de réellement manger le plat. Lorsque l'on goûte, on peut discerner si on finira le plat, si on aimera le plat ou pas. On ne peut pas se contenter de goûter tout simplement en regardant le plat, mais on prendra un petit morceau pour mettre dans la bouche afin de voir si le goût est agréable au palais, si le goût nous conviendra. Et la Bible nous dit que mais si vous avez goûté un petit peu Dieu, si vous avez expérimenté un peu Dieu, mais alors donnez-vous entièrement à lui. Alors il y a une question, bien-aimés, que nous nous posons quelquefois lorsque nous rencontrons des cas difficiles ou des cas en tout cas qui dépassent l'entendement humain. Des personnes qui ont connu le Seigneur, des personnes qui ont vu les miracles de Dieu, qui ont expérimenté les miracles dans leur propre vie du Seigneur, des personnes qui ont servi Dieu, dans lesquelles Dieu s'est manifesté à travers leur ministère, et voir ces personnes sortir du plan de Dieu, sortir de la volonté de Dieu. Et c'est vrai que lorsque on a un regard extérieur, on a du mal à comprendre comment des personnes qui ont connu Dieu, comment des personnes qui ont compris l'Évangile arrivent aujourd'hui à sortir de la voie de Dieu. Comment des personnes qui ont goûté et qui ont vu que Dieu était bon, finalement, on vient à dire que non, je ne veux pas de Dieu. Comment des personnes qui ont accepté Dieu, reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont marché pendant un temps dans les voies de Dieu, finalement finissent par délaisser le Seigneur. Et ce sont des choses, lorsque nous les voyons de l'extérieur, qui nous étonnent et pour lesquelles, quelquefois, nous n'avons pas de réponse. Comment des personnes qui ont entendu l'Évangile pendant un temps, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans même, bien-aimés, et qui aujourd'hui arrivent encore à se comporter comme des païens, c'est quelque chose quelquefois qui nous dépasse lorsque nous le voyons de l'extérieur. Alors, une des réponses que j'ai eues, c'est que beaucoup ont oublié que Dieu était bon. Parce que lorsqu'on confie notre vie au Seigneur, lorsqu'on réalise que Dieu est bon, alors on ne peut plus se plaindre de ce qui nous arrive parce qu'on comprend mieux que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Or, ce verset, nous pouvons l'expérimenter que si nous avons l'assurance que réellement que celui qui permet tout ce que je vis est bon. Mais lorsque nous voyons Dieu comme un méchant, lorsque nous voyons Dieu comme loin, comme quelqu'un qui ne fait aucun cas de notre vie, alors nous prenons maintenant notre propre direction. Mais celui qui réalise et qui comprend, qui a la certitude que Dieu est bon, combien même il manquera aujourd'hui, ça n'enlèvera pas le fait qu'il a connu que Dieu est bon. Et la Bible nous dit, mais puisque vous avez goûté que Dieu est bon, dans ce cas-là, attachez-vous aussi à lui. Nous voyons, bien-aimés, que la bonté de Dieu, il la manifeste de différentes manières. La Bible nous dit, si vous avez goûté que Dieu est bon, et moi je voudrais aller plus loin pour dire que, d'une manière générale, tout homme sur la terre a goûté un peu que Dieu était bon. Maintenant, le Seigneur s'est révélé et l'a manifesté pour chacun d'entre nous, pour chacun des hommes, d'une manière différente. La première manière que Dieu l'a manifesté pour l'humanité, c'est en donnant son Fils unique à la croix. La preuve de l'amour de Dieu, la preuve de la fidélité de Dieu vis-à-vis de l'homme a été manifestée en ce que nous étions encore pécheurs, nous étions mauvais, mais Dieu a trouvé bon de sacrifier son Fils unique pour nous donner la vie. Et ça, c'est le sommet de la manifestation de la bonté de Dieu. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un autre sacrifice que le Seigneur donnera pour manifester qu'il est bon. Ça, ça a été le sommet. Mais dans notre vie de tous les jours, il y a des exemples que nous pouvons donner dans notre vie de tous les jours. Il y a des points que nous pouvons citer qui manifestent que réellement Dieu est bon. Et même si nous n'avons pas vu toutes les facettes de la bonté de Dieu, mais le peu que nous avons goûté de la bonté de Dieu doit nous suffire pour dire « Seigneur, je t'abandonne toute ma vie ». Lorsque l'on goûte quelque chose, bien-aimé, on a maintenant l'assurance de peut-être le goût qu'on recherchait, on a peut-être l'assurance de la délicatesse du plat. Et si nous avons goûté que Dieu est bon, bien-aimé, alors nous avons l'assurance que tout le reste aussi sera bon. Et c'est ce que le Seigneur veut, que nous puissions nous donner entièrement à lui. La bonté que Dieu a manifestée auprès de l'homme, ce n'est pas simplement pour dire « je suis bon », mais cette bonté doit nous pousser nous-mêmes à changer notre vie. La bonté de Dieu doit nous pousser à avoir un autre regard sur le Seigneur. Combien de personnes dans le monde qui vivent les tremblements de terre, qui vivent des épreuves difficiles, sans avoir connu Dieu, ne confessent pas que Dieu est bon. Parce qu'ils vivent des événements difficiles et pour eux, mais si Dieu était bon, il ne permettrait pas toutes ces choses-là. Si Dieu existe, pourquoi tant de maux sur la terre? Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Et c'est le premier point que je voudrais partager ce matin. C'est la bonté de Dieu manifestée à travers sa révélation. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous allons voir, comme je l'ai dit, que la bonté de Dieu s'est manifestée à toute l'humanité d'une certaine manière, mais s'est manifestée encore plus de manière prononcée envers ceux qui ont eu la révélation de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous qui avons eu cette révélation, nous qui avons connu Jésus-Christ, qui avons connu que Dieu est bon, alors nous devons nous attacher à lui. Et s'attacher à Dieu automatiquement produira un changement en nous, produira une nouvelle vie, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La Bible dit que celui qui est né de nouveau, comme le vent souffle, on entend le bruit, on ne sait pas d'où il vient ni où il va, ainsi en est-il de toute personne qui est née de nouveau, c'est-à-dire qui ne contrôle plus sa vie. Là où Dieu l'envoie, il va. Si Dieu dit à gauche, il va à gauche. Si Dieu dit va à droite, il va à droite. Toute personne qui est de nouveau ne se contrôle plus, mais c'est le Saint-Esprit qui le contrôle. Et la Bible nous dit que nous qui avons connu cela, nous devons davantage nous attacher au Seigneur. Nous prenons notre premier passage dans, notre deuxième passage, pardon, dans le livre de Genèse au chapitre 2. Chapitre 2, à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Nous allons au chapitre 4. À partir du verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre et tu qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Amen. Dieu crée l'homme et le place dans le jardin d'Éden afin de le cultiver. Lorsque Dieu avait créé toutes choses, la Bible dit que tout était bon. Adam avait une communion parfaite avec le Seigneur. Il parlait face à face avec Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu lui avait donné un commandement. Il lui avait interdit de toucher un arbre, d'en manger le fruit. Et nous savons que le serpent, ayant tenté Ève, a poussé l'homme à pécher contre le Seigneur, à désobéir au commandement que Dieu lui avait donné en le défendant de toucher à l'arbre. Et dès cet instant, la mort est entrée dans le monde. Adam, qui avait ce privilège de parler face à face avec Dieu, ce privilège a été rompu à cause du péché. Nous voyons là dans l'exemple de Caïn qui a tué son frère Abel parce qu'il a été jaloux du sacrifice que Abel avait fait à l'Éternel, le sacrifice auquel Dieu avait pris du plaisir. Caïn a fini par tuer son frère. Et lorsque Dieu l'a chassé, il lui a dit, « Mais Seigneur, tu me chasses loin de ta face, je ne verrai plus ta face. » Alors, bien-aimés, comprenons que lorsque Dieu avait créé l'homme, l'homme avait ce privilège de pouvoir parler face à face avec Dieu. La connaissance de Dieu était révélée aux yeux de l'homme, mais le péché a interrompu cette communion parfaite. Et ce péché-là, bien-aimés, c'est le même péché dans lequel nous sommes venus au monde, dans lequel la face de Dieu nous était cachée, dans lequel la connaissance de Dieu nous était cachée. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque le Seigneur parle à cette femme samaritaine, qui dit, mais vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Donc, les peuples samaritains pensaient adorer Dieu, mais en réalité, ne le connaissaient pas. Donc, l'adoration était mauvaise. De cette même manière que dans le monde, beaucoup pensent adorer Dieu, beaucoup pensent connaître Dieu, mais en réalité, ils ne le connaissent pas, puisque la connaissance de Dieu ne peut se faire que par sa propre révélation. On ne peut pas connaître Dieu par notre propre intelligence ou en lisant des livres, mais on ne peut connaître Dieu que lorsque lui-même se révèle à nous. C'est de cette manière que Dieu s'est révélé à Moïse. Il a dit, je suis descendu moi-même afin de délivrer mon peuple. Donc la connaissance de Dieu que nous avons aujourd'hui, nous ne la devons pas à notre propre intelligence. Nous ne la devons pas à des cours d'éducation civique, mais nous la devons simplement à la bonté de Dieu qui avait créé l'homme pour être en communion parfaite avec lui. Et cette communion, bien-aimée, qui a été perdue, qui a été rompue à cause du péché, c'est cette même communion cassée dans laquelle nous sommes venus au monde loin de Dieu. Mais parce que Dieu est bon et que son souci, c'était d'être en communion avec le Seigneur, va permettre que l'homme puisse le connaître. Dieu va se révéler à l'homme pour que cette communion soit restaurée. Puisque la volonté de Dieu, c'est que l'homme soit avec lui. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il a prié dans Jean 17, il a dit, « Père, voilà tout ce que tu m'as donné, j'en ai perdu aucun, mais je te les ai amenés. » Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. C'est ça la vie éternelle qui sera conclue lorsque nous serons définitivement au ciel face à face avec le Seigneur. Parce que c'est ça la volonté de Dieu, c'est que tout homme puisse le connaître. Tel qu'il le dit dans 1 Timothée 2:5, que sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Or, cette connaissance a été cassée, a été rendue floue à cause du péché. Mais parce que Dieu est bon, il ne voulait pas se contenter d'une liaison éloignée avec l'homme. Mais il a voulu se rapprocher de l'homme, il a voulu se révéler à l'homme. Et ça, c'est une démonstration, bien-aimée, de la bonté de Dieu, qui ne veut pas que l'homme reste loin de lui, mais qui veut que l'homme se rapproche de lui, bien-aimé. Et cette bonté, Dieu va la manifester, Dieu va prouver, en tout cas, cette bonté, en cherchant à la manifester de toutes sortes de manières. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il lui a dit que c'est lui qu'il avait choisi pour qu'il aille délivrer son peuple de l'Égypte. Alors Moïse va accomplir la volonté de Dieu simplement d'après la parole qu'il a entendue du Seigneur. Abraham va abandonner sa patrie simplement à cause de la voix qu'il a entendue de Dieu. Bien-aimé, Abraham a été appelé le père de la foi. Il n'a pas ressuscité les morts, il n'a pas guéri les malades. Mais il a obéi tout simplement à la voix qu'il avait entendue. La révélation que les hommes avaient bien aimée, c'était une révélation qui nécessitait une foi extraordinaire. Obéir à une voix, sans voir, sans même avoir une preuve écrite, sans avoir une preuve matérielle. Dieu n'a pas fait des miracles pour que Abraham puisse croire, mais ce miracle-là qu'il va faire avec le peuple d'Égypte, en faisant la guerre à tous les dieux égyptiens et en remportant cette victoire, c'est un langage que le Seigneur va manifester auprès de son peuple pour leur faire comprendre qu'il est Dieu et qu'il est au-dessus de tout. C'était une approche pour que Dieu puisse se révéler à ce peuple-là, pour dire « Je suis le Dieu de vos pères, le Dieu de vos pères, donc je suis vivant, dit l'Éternel. » Et cette révélation, bien-aimée, est encore, je dirais, une révélation vague, qui est simplement basée sur un serviteur que Dieu choisit et qu'il va faire, par lequel il va faire passer sa volonté pour parler au peuple. Mais c'était quelque chose dans lequel Dieu ne voulait pas se contenter. Jusqu'en sortant le peuple du désert, en faisant des prodiges, en faisant des miracles, Dieu va écrire sa loi sur des tablettes, bien-aimés. Donc Dieu va rendre un langage beaucoup plus compréhensible, un langage beaucoup plus sain pour l'homme, parce que le Seigneur ne veut pas se contenter d'une connaissance éloignée, d'une connaissance théorique, mais à travers la loi, le Seigneur a voulu dévoiler à l'homme son propre caractère, afin qu'en lisant la loi, l'homme puisse clairement comprendre qui est Dieu, comment Dieu fonctionne. C'est pourquoi il a donné cette loi, en donnant des commandements, en donnant des restrictions. Ce n'était pas pour mettre le peuple mal à l'aise, mais c'était à travers cette loi que l'homme allait vivre, que l'homme allait expérimenter, qu'il allait maintenant comprendre comment Dieu est amour, qu'il allait comprendre comment Dieu est puissant, qu'il allait comprendre comment Dieu est fidèle, qu'il allait comprendre comment Dieu pourvoit. Parce que le Seigneur ne voulait pas d'une simple relation théorique avec l'homme, mais il voulait une relation privilégiée, bien-aimée. Et le peuple n'a rien fait pour que cela arrive, mais Dieu, dans son amour, a choisi lui-même de descendre pour délivrer l'homme. Et dans son propre amour, dans sa bonté, il a trouvé bon encore de se révéler à l'homme. C'est pourquoi, bien-aimés, nous disons que le véritable christianisme, ce n'est pas une religion. La religion, ce sont les moyens que l'homme lui-même décide, que l'homme lui-même met en place pour essayer de comprendre Dieu, pour essayer d'atteindre Dieu. D'autres diront qu'il faut prier de telle manière, d'autres diront qu'il faut lire la parole de telle manière. Mais le christianisme, c'est Dieu lui-même qui est descendu pour se révéler à l'homme. C'est comme ça, bien-aimé, à cause de sa propre bonté, parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit éloigné de lui, mais Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit proche de lui, pour qu'il ait une communion privilégiée. Parce que même si Dieu a créé les animaux, en insufflant son souffle, Dieu a créé la nature, mais il n'y a que l'homme que Dieu a créé à son image. Et parce qu'il a créé à son image, le Seigneur veut avoir une relation privilégiée qu'il propose encore aujourd'hui, bien-aimés. Premier point. Deuxième point, Dieu s'est révélé à l'homme. Et comme je le disais en introduction, que tout homme, d'une manière générale, a goûté que Dieu est bon. Peut-être il n'a pas encore totalement compris que ce langage-là était la manifestation de la bonté de Dieu. Mais lorsque Dieu se révélera clairement, ils comprendront que oui, réellement, Dieu avait parlé. Et la Bible nous le confirme. Nous lisons dans le psaume 19. Psaume 19, la Bible dit au verset 1er. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Amen. Nous lisons Romains chapitre 1er. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans tous ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Amen. Le psaume 19 nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. La création témoigne de la gloire de Dieu. Et la Bible dit que c'est un son qui parcourt toute la terre. Et il dit que c'est un langage qui est entendu par tous. Donc c'est un langage que tout homme peut connaître lorsqu'il observe la création. Il peut comprendre qu'il y a quelque chose qui est au-dessus d'eux. Et le Seigneur confirme cette parole dans Romains 1. Il dit, mais tout se révèle à travers les perfections visibles, les perfections invisibles. Lorsqu'on les considère dans ses ouvrages, lorsque l'on réfléchit là-dessus, on peut comprendre que Dieu existe. Et le Seigneur dit qu'il l'a révélé. Donc, ils sont inexcusables. Tous ceux qui ont retenu cette vérité captive, au lieu de rendre gloire à Dieu, de lui rendre grâce à travers ce qu'il a créé, ils se créent des statues et disent c'est leur Dieu. Ils prennent des hommes politiques, des serviteurs de Dieu, entre guillemets, et ils disent c'est leur Dieu. Au lieu d'adorer Dieu à travers ce qu'il a fait, ils adorent des hommes, ils adorent des objets. Et Dieu dit qu'ils sont donc inexcusables. Cet avant-goût, la création, la manifestation de la puissance de Dieu bien-aimé, c'est un avant-goût que Dieu a donné dans tout homme. Et la Bible dit encore dans Ecclésiaste 3:11 qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Or, lorsque nous parlons de l'éternité, bien-aimé, ça se réfère à ce qui est éternel. Or, il n'y a que Dieu seul qui soit éternel. Donc, Dieu a mis dans tout homme un soupçon qui devrait amener l'homme à se souvenir de Dieu ou même à rechercher Dieu. C'est comme ça que Dieu s'est révélé, bien-aimé. À travers la création, Dieu a voulu aussi manifester sa bonté, bien-aimé. Nous qui sommes sur la terre, nous voyons comment le monde a été parfait. Comment nous qui vivons sur la terre, qui est l'environnement naturel de l'homme bien-aimé, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'aller dans l'espace. Nous n'avons pas besoin d'aller sous la mer. Mais sur cette terre sur laquelle Dieu nous a déposés, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Et ça, c'est la démonstration de la bonté de Dieu. À travers la nature, à travers la création, le Seigneur a voulu se révéler à l'homme. Il s'est révélé à l'homme. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque nous voyons tout ce que Dieu a créé, nous n'avons que des sujets pour pouvoir l'adorer et le louer. Combien même aujourd'hui, nous n'avons pas vu de miracle ce matin, combien même nous n'avons pas quoi eu de manger ce matin, mais lorsque nous observons ce que Dieu a créé, on ne peut que le louer et on ne peut que l'adorer. Dieu s'est révélé à travers la création, bien-aimés. Et c'est encore un passage qui nous montre, bien-aimés, que souvent dit, mais tel n'a peut-être pas bien entendu parler du Seigneur, il n'a peut-être pas écouté telle prédication. Bien-aimés, la Bible dit que personne n'est excusable. Dieu se sera révélé à tout homme. Mais la Bible dit que l'homme aussi a été créé avec la capacité de faire ses propres choix. Dieu s'est révélé, mais le choix nous appartient encore. Un autre point, bien-aimé, Marc chapitre 16. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Voilà la volonté du Seigneur qui s'est révélée à ses disciples, qui s'est révélée à nous aujourd'hui qui sommes enfants de Dieu. Nous n'avons rien demandé. Le Seigneur, dans son amour, s'est révélé à nous par de différentes manières. Mais le Seigneur ne s'en tient pas là. Et à travers ce verset, on peut comprendre le souci de Dieu de se faire connaître auprès de tout homme. Il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle ». allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Or, la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu annoncer, c'est non seulement le pardon de nos péchés, non seulement le fait qu'il allait prendre nos péchés, qu'il allait mourir à cause de nos péchés, mais il est venu aussi révéler Dieu. C'est pourquoi il a dit au peuple, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. » La loi que le Seigneur avait donnée au peuple pour se révéler, pour faire comprendre quelle était sa nature, a été très difficile à l'homme de mettre en pratique. Parce que la Bible nous le dit que c'était impossible même à la chair. Et le Seigneur, dans sa bonté, ne voulait pas se limiter à ça, mais il a voulu aller beaucoup plus loin en envoyant son Fils. Mais au-delà de ça, le Seigneur demande d'abord, avant d'arriver au point de Jésus, que nous qui avons reçu cette parole-là, nous puissions la prêcher à d'autres, que nous puissions aller et annoncer encore l'Évangile, que nous puissions aller parler du Seigneur, dire aux gens que Dieu les aime, dire aux gens que Dieu pardonne encore aujourd'hui, bien-aimés, parce qu'il s'est révélé à nous. Et par le Saint-Esprit qu'il nous a donné, il veut se révéler encore à d'autres personnes. Parce que le Seigneur refuse de se contenter d'une simple liaison éloignée avec l'homme. Le Seigneur refuse que l'homme se contente d'une connaissance théorique, d'une connaissance superficielle. Mais le Seigneur veut se présenter, veut se révéler clairement à l'homme. Le Seigneur a ce souci-là, le souci dans lequel il avait créé l'homme depuis le livre de la Genèse pour que l'homme soit en communion parfaite avec lui, détruit par le péché. Mais bien aimé, si Dieu était méchant, il aurait laissé l'homme dans son coin et il serait resté dans son coin pour continuer à vivre sa vie. Mais le Seigneur a dit non. Il a cherché encore à se révéler à l'homme parce que le péché avait caché sa face à l'homme. Et il dit que allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. C'est la volonté de Dieu bien-aimé que tout homme puisse le connaître. C'est pourquoi lorsque nous prions, que Dieu se révèle aux bien-aimés pour lesquels nous pouvons prier, que ce soit les membres de nos familles, que ce soit des amis, que ce soit des collègues de travail, bien-aimés, soyons certains que c'est une prière qui est à 200% en accord avec la volonté de Dieu. Puisque la volonté de Dieu, c'est que l'homme puisse le connaître. Dieu ne veut pas que l'homme puisse rester éloigné de lui. Le Seigneur a manifesté sa bonté par la révélation de sa propre nature, à travers sa création, à travers la parole, à travers la loi qu'il avait donnée à son peuple pour se faire connaître clairement au Seigneur, aux hommes. Il a fait aussi, il veut aussi se faire connaître à travers la prédication, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous prêchons le Seigneur, on ne peut pas prêcher à notre propre nom. Il y a des personnes qui vont assister à des séminaires. Quand ils sortent de là-bas ou ils viennent écouter une prédication, ils ne font que parler du pasteur. Mais finalement, quelle prédication on a entendue? Est-ce que cette prédication nous a révélé davantage la nature de Dieu? Ou cette prédication nous a révélé simplement que l'homme qui a prêché était puissant, qu'il était capable de faire des miracles, que Dieu l'avait béni? Bien aimé, non. Lorsque nous allons prêcher la bonne nouvelle, Jésus-Christ Dieu doit être le centre de toutes choses. Si la personne sort de là en ayant une grande estime de toi, bien aimé, c'est que tu as mal fait ton travail. Mais la personne doit sortir de là en ayant compris que Jésus-Christ est le centre de toutes choses, en ayant compris que Dieu le cherche et que Dieu a un plan merveilleux pour lui. C'est ça l'objectif, bien aimé, d'aller et de prêcher la bonne nouvelle, c'est que l'homme puisse connaître cette révélation cachée par le péché. Le Seigneur, aujourd'hui encore, la restaure à travers la prédication, parce que son souci, c'est que tout homme puisse le connaître, bien-aimé. Il n'y a que ceux qui ont connu Dieu qui pourront entrer dans la vie éternelle. Ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, bien-aimé, ne pourront pas entrer. Or, le Seigneur est venu se révéler gratuitement. Lorsque tu veux aujourd'hui servir le Seigneur, mais que tu commences à faire payer tout ce que tu fais, bien-aimé, est-ce que réellement tu cherches à ce que la révélation de Dieu soit connue, bien-aimé? Ce n'est pas ça. Beaucoup de personnes sont empêchées, non pas, je dirais, une vie chrétienne, en tout cas de connaissances accessibles, parce que l'argent est entré en jeu et cette connaissance, cette révélation de Dieu est freinée à cause de l'argent. Certains n'ont pas les moyens d'acheter les CD, d'autres n'ont pas les moyens d'acheter les livres, et puisqu'ils n'ont pas les moyens même de s'acheter une Bible, alors ils restent là, tout simplement, bien-aimés. Or, la volonté de Dieu, c'est que les hommes puissent le connaître. Et nous qui l'avons connu, il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle. Mais si cette prédication devient maintenant payante, bien-aimé, comment la révélation de Dieu se fera clairement? Comment la révélation de Dieu se fera clairement? Et au-delà même de l'argent, il y a même certaines conditions, bien-aimé. où on demande à nous voir, c'est toutes sortes de procédures, de rendez-vous, toutes sortes de procédures. Rappelle-moi, parce bien-aimé, non, nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Même si l'argent, c'est vrai, peut être un frein pour beaucoup, mais au-delà même, le temps que nous refusons quelquefois d'accorder aux autres est aussi un frein pour la révélation de Dieu. La personne a besoin de nous pour sans raison, on dit, ben non, je suis fatigué. Sans raison, non, je ne veux pas. Sans raison, je ne peux pas, bien-aimé. Mais en agissant ainsi, nous devenons un frein pour la révélation de Dieu, puisque nous qui l'avons connu, il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est par la prédication que le Seigneur a choisi aussi de se révéler à l'homme. Et c'est un moyen, bien-aimé, que nous devons utiliser parce que la Bible nous le présente comme un commandement aussi, mais comme la mission pour laquelle Dieu nous envoie. Dieu est bon et dans sa bonté, il veut se révéler à l'homme aussi par la prédication. Jean chapitre 14. Verset 7, la Bible dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Le Seigneur dit à ses disciples, celui qui m'a connu a connu le Père. Philippe fait la remarque, mais montre-nous le Père, Seigneur. Jésus-Christ étonné dit, mais depuis le temps que vous êtes avec moi, tu dis que tu ne connais pas le Père. Mais c'est étonnant. À travers la vie que Jésus-Christ a manifestée, à travers la nature divine que Jésus-Christ a manifestée, et il le dit encore à travers les œuvres qu'il a manifestées, il dit, mais comment dis-tu, montre-nous le Père? Bien-aimé, Jésus-Christ était dans toute sa gloire, près du Père. Il était dans le Père, mais il est descendu sur la terre. Des hommes, il a accepté de se revêtir du corps de l'homme pour pouvoir apporter cette révélation de Dieu aux hommes. Et si Dieu n'était pas bon, bien-aimé, il n'aurait pas fait les choses ainsi. Il se serait contenté d'envoyer ses prophètes. Il se serait contenté d'envoyer sa parole de temps à autre par des prophéties, par des oracles, bien-aimé. Mais Dieu a refusé de se limiter à ça. Il a envoyé son propre Fils afin que lorsqu'on le voit vivre, que l'on puisse connaître qui était Dieu. Parce que Dieu est bon, bien-aimé. Et je reviens sur ce que je disais, que beaucoup d'entre nous qui sortons de la voie de Dieu, c'est parce que nous avons oublié que le Seigneur est bon, bien-aimé. Dieu est bon et beaucoup qui s'égarent, bien-aimé, ce n'est pas forcément par la convoitise. Beaucoup qui s'égarent, bien-aimé, ce n'est pas forcément par le péché. Mais beaucoup s'égarent tout simplement parce qu'ils ont oublié que Dieu était aussi bon. Dans ce cas, lorsqu'il y a des choses qui leur arrivent, ils ne le supportent pas. Alors la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Lorsque Dieu permet des choses dans leur vie, ils ne le supportent pas. Mais celui qui vit toutes ces choses, mais qui se souvient que Dieu est bon, alors il restera aussi dans la volonté de Dieu. Mieux vaut être dans la volonté de Dieu en souffrant que d'être dans une certaine paix. Or, la volonté de Dieu bien-aimé. Et c'est ça qui nous éloigne du plan de Dieu, c'est parce que nous oublions que Dieu est bon. Alors on cherche des fautes chez les autres. On ne supporte pas des injustices. Pourquoi Dieu a permis ceci? Pourquoi Dieu a permis cela? Mais bien aimé, si Dieu est bon, alors comprenons que s'il a permis ça, il l'a aussi permis dans sa bonté. Puisque Dieu est bon, il ne peut permettre que de bonnes choses dans notre vie. Mais c'est nous, bien aimés, qui ne voulons pas nous soumettre, qui ne voulons pas accepter la bonté de Dieu telle que Dieu nous la présente, qui nous fait sortir du plan de Dieu. Le Seigneur a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et c'est ça, bien-aimé, lorsque nous restons dans cet état, que les pensées de Dieu sont à un niveau, et notre pensée à un autre niveau, nous ne pouvons pas saisir la bonté de Dieu. Or, la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, que l'Esprit Saint que Dieu a fait habiter en nous sonde les profondeurs de Dieu. Donc, par le Saint-Esprit, nous avons la capacité aujourd'hui de pouvoir discerner le plan de Dieu, de pouvoir discerner la bonté de Dieu dans tout ce qu'il permet dans notre vie, même si apparemment ça semble difficile, même si sur un plan physique, ça semble difficile à supporter, difficile à vivre, mais parce que nous avons été renouvelés, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous pouvons discerner là où est la bonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu cherche en permettant telle épreuve? Qu'est-ce que Dieu cherche en permettant telle situation? Mais lorsque nous oublions que Dieu est bon, alors nous n'accepterons pas aussi tout ce que Dieu permet dans notre vie. Bien-aimé, lorsque l'enfant ne comprend pas, lorsqu'on le punit parce qu'il a fait une bêtise, pour lui, ses parents sont les plus méchants. Ils sont les plus méchants. Mais lorsqu'il grandira, il comprendra que oui, mes parents m'avaient épargné de tel ou de tel danger. Parce qu'il aura maintenant une certaine connaissance. C'est pourquoi, bien-aimé, qu'il y a une certaine connaissance, ou en tout cas, une certaine manifestation de la bonté de Dieu, que Dieu va permettre dès l'instant où nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes inexcusables, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et pas la sagesse que l'Esprit nous communique, pas l'intelligence que l'Esprit nous donne, nous pouvons, même si les temps sont difficiles, nous asseoir un instant et comprendre que oui, réellement Dieu est bon. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous avons vu la manifestation de Dieu. Nous avons vu la gloire de Dieu, nous avons vu des miracles, chacun à notre niveau, d'une certaine manière. Mais beaucoup d'entre nous, nous avons vu une autre manifestation de la puissance de Dieu alors que nous étions dans des problèmes. Mais au moment où nous étions en train de nous rebeller dans les problèmes, bien-aimés, si cette rébellion aurait été éternel, on n'aurait pas pu louer l'Éternel de ce qui nous a fait passer par tel chemin. Mais aujourd'hui, si beaucoup d'entre nous, nous pouvons louer Dieu, c'est parce que nous savons d'où nous sommes venus. Nous savons les épreuves, les situations difficiles que Dieu a permis. Et lorsque nous sortons de cette épreuve, lorsque Dieu nous fait sortir de cette situation, réellement nous pouvons dire que Dieu est bon. Mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on ne se contente pas simplement de voir la délivrance pour comprendre qu'il est bon, mais que nous devons comprendre sa bonté même lorsque ça va mal, même lorsque c'est dur, nous devons comprendre sa bonté. Et cette bonté, nous pouvons la comprendre, bien-aimés, par la foi. Or, la foi, c'est une assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration, bien-aimés. C'est-à-dire que par la foi, même étant dans l'épreuve, on peut voir à l'avance la délivrance que Dieu prépare. Et ainsi même que nous sommes dans les difficultés, nous sommes déjà dans la joie de voir à l'avance ce que Dieu prépare et ainsi nous pouvons même célébrer la bonté de Dieu pendant même que nous sommes dans l'épreuve. Mais lorsque nous oublions cette bonté, bien-aimés, on va commencer à se rebeller et petit à petit à sortir de la volonté de Dieu. Beaucoup aujourd'hui qui sont sortis de la voie de Dieu, beaucoup aujourd'hui qui sont tombés dans l'apostasie, bien-aimés, c'est parce qu'ils ont oublié que Dieu était bon. Combien aujourd'hui, bien-aimés, d'organismes dit chrétiens, combien d'organismes qui ont commencé, comme l'apôtre Paul dit dans Galates, qui ont commencé dans l'esprit, commencent à achever dans la chair parce qu'ils ont oublié que Dieu était bon. Ils ont commencé une œuvre inspirée par le Seigneur. Et soudainement, ils sont épris d'une plus grande soif que Dieu de vouloir sauver les âmes, commencent à mendier, commencent à faire des appels de fonds, mais vous avez commencé en ayant cette certitude que Dieu était bon. Alors lorsque Dieu semble fermer le robinet, on oublie que Dieu est bon et on commence à réfléchir avec la chair, on commence à faire des choix charnels qui nous font sortir de la volonté de Dieu. Est-ce que l'homme aujourd'hui serait devenu plus bon que Dieu? Est-ce que l'homme aurait sacrifié son enfant pour que l'humanité soit sauvée? C'est Dieu qui est bon. Et lorsqu'on oublie que Dieu est bon, bien-aimé, on devient nous-mêmes, c'est comme si on devenait plus bon que Dieu. Et on cherche des moyens dans lesquels Dieu ne nous a pas envoyés. C'est pourquoi beaucoup qui ont bien commencé, des organismes qui soutiennent quelquefois l'Église persécutée, commencent à collaborer avec le catholicisme tout simplement pour avoir plus de fonds, plus d'argent, bien-aimés. Parce qu'ils ont oublié que ce Dieu-là qui était bon, qui leur a inspiré de pouvoir soutenir ces chrétiens-là, allait encore agir. Et dès l'instant où on oublie que Dieu est bon, on commence nous-mêmes à chercher d'autres moyens pour régler notre problème. Dieu est bon, bien-aimé, et ça, ça fait partie de sa nature. Personne ne peut le changer, bien-aimé. Un chien ne peut mettre au monde que des chiots. Une poule ne peut pondre que des œufs parce qu'elle a été constituée, elle a été créée ainsi. Ainsi, bien-aimé, Dieu est bon et personne ne peut le changer parce que c'est en lui, bien-aimé, et on ne peut pas le changer. Mais dès l'instant où on voit la nature de Dieu différente de ce qu'il est, bien-aimé, un jour ou l'autre, ça nous fera sortir du plan de Dieu. Ça nous fera sortir de la volonté de Dieu. Beaucoup qui ont bien commencé en prêchant dans la vérité ne prêchent plus dans la vérité parce que lorsque c'est trop dur, ils voient les membres qui commencent à quitter l'Église, bien-aimés. Mais Dieu est bon, il aime l'homme et il veut le sauver. Donc ce n'est pas dans des compromis, ce n'est pas en disant « bon, tu es dans le concubinage, petit à petit Dieu va changer, ce n'est pas grave, Dieu peut comprendre ». Ce n'est pas en laissant les personnes dans la cigarette en disant « petit à petit tu vas arrêter, Dieu va comprendre ». Bien-aimés, ça c'est faux. Et lorsqu'on oublie la bonté de Dieu, on en vient nous-mêmes à se croire bon et à mettre en place des moyens pour essayer de plaire aux hommes. Parce qu'on devient plus bon que Dieu. Bien-aimé, tout ça, c'est faux. Dieu est bon et dans sa bonté, il la manifeste comme il veut. C'est à nous de nous soumettre et d'accepter que dans tout ce que Dieu fait, que dans tout ce qu'il permet, il est bon parce que c'est sa nature et il est comme ça, personne ne peut le changer. Si nous perdons un instant en vue, bien-aimé, que Dieu est bon, alors on va entrer dans des compromis. On va entrer dans la fausseté, on va entrer dans le mensonge et on va quitter la voie du Seigneur et un jour, on finira par tomber définitivement. N'oublions pas, bien-aimé, que Dieu est bon. Dieu s'est manifesté et cette bonté, il a manifesté en se révélant lui-même à l'homme. Dieu est descendu lui-même. Dieu a donné sa parole. Parce qu'il a soif de se révéler à l'homme. Il a envoyé son Fils unique et à travers la gloire de Jésus-Christ, à travers sa nature, à travers son témoignage, ceux qui ont vécu à cette époque-là ont pu voir la nature de Dieu. On peut voir comment Dieu était bon. On peut voir comment Dieu était amour. Lorsque Jésus-Christ a fait ces miracles-là, cette pauvre veuve qui avait son fils unique qui allait mourir, Jésus-Christ a arrêté le cortège, il a ressuscité cet homme-là. Lorsque Lazare était mort depuis 4 jours, il a vu toute cette foule en dépit, dépité devant la mort, impuissant devant la mort. Jésus-Christ a eu cette compassion-là et a manifesté que lui était au-dessus de la mort. Il est venu redonner une espérance à ceux qui n'avaient plus devant la mort. Il a dit que celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, car c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Cette espérance que l'homme n'avait plus, à travers la mort, Jésus-Christ est venu montrer la nature de Dieu et manifester que Dieu était au-dessus de cette mort, parce que le Seigneur refusait de se contenter d'une simple relation éloignée, d'une relation théorique avec l'homme. Dieu, Jésus-Christ, s'est manifesté à cette femme samaritaine. Il a dit, vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et Jésus-Christ lui a dit sa vie, lui a décrit sa vie. Cette femme a été touchée. Elle a dit aux habitants de la Samarie, venez voir ici un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ce Dieu-là qu'elle ne connaissait pas lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, cette révélation maintenant est devenue claire. Et enfin, elle pouvait maintenant adorer un Dieu qu'elle avait connu, un Dieu qui s'était révélé à elle. Cette femme qui était là en train de puiser de l'eau bien-aimée ne pouvait pas imaginer un jour que Jésus-Christ viendrait, que Dieu, le Dieu vivant, viendrait se présenter à elle, bien-aimée. Mais c'est ce que Jésus-Christ est venu, parce qu'il l'aimait, parce que tout simplement, il était bon. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, on empruntait des voies sans même chercher Dieu. On prenait nos propres décisions sans même chercher Dieu. Et moi, le premier, étonné, bien-aimé, de pouvoir aujourd'hui louer le Seigneur. Je ne cherchais pas Dieu dans ma vie, mais Dieu s'est révélé à moi. Peut-être pas en descendant face à face, mais en créant certaines situations, en créant des événements qui m'ont obligé à crier à Dieu. Même si tu n'as pas entendu l'évangile comme ça, que quelqu'un t'a prêché, bien-aimé, mais ce qui t'a poussé à crier, le malheur dans lequel tu étais, qui t'a poussé à crier à Dieu, eh bien, c'est Dieu qui l'avait permis, parce qu'il voulait tout simplement se révéler à toi. Et c'est la même chose qu'il a fait avec son peuple en Égypte. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu. Le peuple était là, dans la souffrance, dans l'esclavage. Mais Dieu voulait restaurer cette communion qu'il avait eue avec leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a dit, je vais redescendre. Et auprès de ce peuple-là, il va restaurer, il va ramener cette révélation que Abraham avait eue, cette révélation que Isaac, Jacob avait eue, parce que le Seigneur ne voulait pas avoir une relation lointaine avec son peuple. Et ça, bien-aimé, c'est le signe de la bonté de Dieu. Nous lisons Matthieu chapitre 27. Matthieu 27, à partir du verset 45. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Eli. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. La révélation de Dieu, comme je disais, bien-aimé, était cachée. Et nous avons vu à travers ces points que nous avons donnés ce matin pour montrer la soif que Dieu a de se révéler à l'homme. La volonté que Dieu a toujours eue d'avoir une relation privilégiée avec l'homme. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ était sur la croix, lorsqu'il rendit l'esprit, le voile du temple s'est déchiré en deux. Le voile du temple qui séparait le lieu saint et le lieu très saint dans lequel seul le souverain sacrificateur avait accès une fois par an, bien-aimé. Et ce symbole-là, que le voile du temple s'est déchiré en deux, était la démonstration que le Seigneur ne voulait pas que l'homme, que son peuple reste éloigné de lui, mais que l'homme puisse avoir un total accès à la présence de Dieu qui était voilée à cause du péché, bien-aimé. Et c'est encore là la démonstration de la bonté de Dieu, la preuve que Dieu aime et qu'il veut une relation proche avec l'homme, bien-aimé. Une relation proche avec l'homme. Et c'est ce que j'ai déjà dit, puisque le voile du temple a été déchiré en deux, bien-aimé. Pourquoi se contenter d'avoir une connaissance partielle avec le Seigneur ? Pourquoi se contenter de rester dans le lieu saint alors que le lieu très saint nous a été ouvert concrètement, pleinement, bien-aimé, afin que nous puissions voir le Seigneur, que nous puissions parler avec lui, que nous puissions le comprendre, bien-aimé. La bonté de Dieu ne doit pas tout simplement nous pousser simplement à dire Dieu est bon, mais si réellement Dieu est bon, comme l'apôtre nous le dit dans le premier passage que nous avons lu, 1 Pierre 2, 2. Si vous avez goûté que Dieu est bon, alors qu'il doit y avoir une différence. Séparez-vous avec tout ce qui est mal. Autrement dit, bien-aimé, si nous avons goûté que Dieu est bon, démontrons-le aussi par notre manière de vivre. Notre témoignage doit démontrer que réellement Dieu est bon. Et quelqu'un qui a compris que Dieu est bon ne cherchera pas à mendier, bien-aimé. Quelqu'un qui a compris que Dieu est bon ne cherchera pas à se quereller avec les autres. Quelqu'un qui a connu que Dieu est bon cherchera à le connaître davantage, puisque l'apôtre nous dit, mais désirez davantage. Ça veut dire que Dieu veut donner encore. Ne vous contentez pas. Désirez davantage le lait spirituel, puisque vous avez goûté que Dieu est bon. Le lait, on le donne qu'aux enfants. Donc, demeurez des enfants, restez des enfants. Continuez à désirer ce lait-là. Donc, notre vie doit témoigner que nous avons compris que Dieu était bon. Mais lorsque nous faisons les orgueilleux, bien-aimés, c'est la démonstration que nous n'avons pas goûté que Dieu était bon. Quelqu'un qui est bon, qui a goûté que Dieu est bon, deviendra humble, comprendra que c'est dans l'humilité qu'il comprendra davantage Dieu, comprendra que c'est dans l'humilité qu'il pourra réellement avoir une communion avec le Seigneur. Mais dans la méchanceté, dans la médisance, dans la jalousie, bien-aimés, lorsque nous manifestons ces comportements-là, c'est que nous n'avons pas connu que Dieu était bon. Lorsque nous cherchons à nous faire notre propre justice, c'est que nous n'avons pas compris que Dieu était bon pour nous défendre lui-même, bien-aimé. Mais nous voulons nous-mêmes nous faire justice, bien-aimé. Lorsque nous avons compris que Dieu est bon, pourquoi, comme je l'ai dit au bien-aimé, au Congo bien-aimé, pourquoi se contenter alors que Dieu, dans sa bonté, nous a mis, je dirais, dans une situation dans laquelle nous avons un accès libre à la connaissance. Bien-aimé, pourquoi se contenter d'être des chrétiens du dimanche? Si réellement nous avons goûté que Dieu est bon, bien-aimé, lorsqu'on a goûté qu'un plat est bon, on aura toujours envie de manger ce plat-là. Mais comment nous qui avons goûté que Dieu est bon, nous qui avons confessé que Dieu est bon, on se limite, bien-aimé, à être des chrétiens du dimanche? Comprenons ce que je dis. Je ne dis pas que on doit venir esclave des bâtiments, mais je dis on doit devenir esclave de la justice de Dieu, tel qu'il nous le dit dans le livre de Romains 6, 18, je crois. Nous sommes devenus esclaves de la justice. Or, si nous sommes devenus esclaves de la justice, c'est-à-dire nous sommes devenus esclaves de la parole. Or, la parole nous dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Or, la parole nous dit que les disciples persévéraient dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, bien-aimé, et nous sommes devenus esclaves de cette parole. Alors pourquoi nous contenter simplement d'être des chrétiens du dimanche, bien-aimé? Le dimanche ne sauvera pas. Ce qui sauvera, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Et la mise en pratique de la parole de Dieu est la démonstration que nous avons connue que réellement Dieu est bon. Puisque Dieu est bon, alors suivant aussi ses conseils, qui nous dit que nous devons partager ensemble, suivant aussi ses conseils, bien-aimés, qui nous dit que nous devons persévérer dans l'enseignement. Bien-aimés, ce n'est pas avec la prédication du dimanche qu'on va changer, bien-aimés. Ce n'est pas avec la prédication du dimanche qu'on va arriver, je ne sais pas à quel niveau, bien-aimés, c'est faux. On va arriver au niveau que Dieu veut en mettant en parole sa pratique. Il nous dit qu'ils persévéraient ensemble. Ils étaient assidus ensemble, bien-aimés. On ne peut pas aujourd'hui inventer ou créer un autre fonctionnement de l'Église que ce que le Seigneur nous a donné. Acte 2, 42 nous explique clairement l'Église qui était agréable à Dieu. Aujourd'hui, on veut se faire notre propre Église en se disant « je vais me contenter de rester à la maison le dimanche, je vais me contenter parce que à l'Église là-bas, l'Église, bien-aimé, mais l'Église c'est toi aussi, bien-aimé. L'Église c'est toi aussi, l'Église, des problèmes, l'Église, les gens parlent beaucoup, mais bien-aimé, c'est toi-même qui es l'Église aussi. » Donc c'est une erreur, bien-aimé, que de regarder l'Église comme quelque chose qui est à l'extérieur et de t'exclure parce qu'en te mettant à l'extérieur, toi-même, tu sors de la volonté de Dieu. Or, si tu as goûté que l'Éternel est bon, pratique aussi cette parole-là et comprends que quand on dit l'Église, Église, tu fais partie de cette Église dans laquelle tu viens aussi te réunir avec les frères et les sœurs. Si nous avons goûté que Dieu est bon, mettons en parole sa pratique. Le Seigneur dit dans Jean 14, 21, que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Oh, bien-aimés, nous aimons le Seigneur parce que nous avons connu qu'il était bon. Nous aimons Jésus parce que nous avons connu qu'il était bon. Oh, celui qui est bon, qui s'est révélé à nous, il dit, si vous voulez prouver que vous m'avez connu, si vous voulez prouver que réellement vous confessez que je suis bon, mais vivez aussi ce que je vous dis. Vivez aussi ce que je vous dis. Bien-aimés, se contenter d'un jour par semaine, alors que le Seigneur nous met dans des dispositions où nous pouvons faire plus, nous pouvons vivre plus l'Église, bien-aimés, c'est ne prendre qu'une portion de ce que Dieu veut nous donner. Or, l'apôtre dit, mais si vous avez goûté que Dieu est bon, désirez davantage. Ne vous contentez pas à la simple petite cuillère pour dire oui, c'est bon. Non, si réellement vous avez aimé, eh bien, désirez davantage. Cherchez davantage, bien-aimés. Et en négligeant cette vie-là, bien-aimés, ne nous trompons pas. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y a pas de miracle, comme on dit dans le monde. Le principe que Dieu nous donne dans la Bible, ce sont les principes qui vont nous aider à pouvoir le connaître, mais surtout à pouvoir accéder à la vie éternelle. Nous voulons changer l'Église dans notre conception. Bien-aimés, c'est ne pas connaître la bonté de Dieu. Nous voulons vivre notre Église avec nos propres idées, bien-aimés, se sortir de la voie de Dieu et insister là-dessus en se faisant son propre docteur. En se faisant son propre pasteur, bien-aimé, c'est changer la Bible. C'est changer la Bible, bien-aimé. La Bible, le Seigneur dit, la manière dont il s'est révélé, il dit, ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables. Personne d'entre nous, ni même ceux de dehors, auront une excuse valable devant Dieu. Parce que nous voyons à travers tous ces exemples, la volonté de Dieu, malgré que l'homme ait désobéi, malgré que l'homme ait péché, la volonté de Dieu à mettre tout en place pour se révéler à l'homme. Dieu a tout fait. Il a envoyé la loi. Il a envoyé ses prophètes. On a tué. Il a envoyé son propre fils. Qu'on a persécuté, qu'on a tué. Mais le Seigneur a quand même laissé sa parole, bien-aimé. Nous n'aurons plus d'excuses. Dieu est bon. Il le manifeste, bien-aimé, à travers sa parole. Il l'a manifesté à travers la venue de Jésus. Il l'a manifesté à travers les écrits. Il l'a manifesté à travers sa révélation. Et tous ces moyens-là ont été donnés, bien-aimés, pour nous. Ont été donnés pour nous. Nous avons connu le Seigneur, mais si nous l'avons connu, alors que cela nous pousse, bien-aimés, à réellement vivre sa parole, à réellement manifester que nous avons connu que Dieu est bon. Quelqu'un qui est bon, on lui fera confiance. Comment faire confiance? C'est en écoutant ses conseils, bien-aimés, en les mettant en pratique. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ seul. Éternel Dieu de gloire, dans le nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu vivant, Seigneur, le Maître des temps et des circonstances. Seigneur, si nous sommes là encore ce matin, c'est vrai, Seigneur de gloire, c'est que nous avons réalisé que tu es bon. Mais nous reconnaissons aussi, Seigneur de gloire, qu'à travers différents témoignages, à travers différents comportements que nous avons manifestés, Seigneur de gloire, ça ne témoignait pas de ta bonté. Aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, tu veux nous amener encore, Seigneur, à ne pas nous inquiéter de ce qui sera après nous, Seigneur, car toi-même, tu prends soin de nous. Dans ta bonté, éternel Dieu de gloire, nous étions pécheurs, Seigneur. Nous étions sur la voie de la mort. Nous étions sur la voie de l'enfer, Seigneur. Mais dans ton amour, dans ta fidélité, dans ta bonté, éternel Dieu de gloire, tu t'es souvenu de nous, Seigneur, non pas à cause de nos sacrifices, mais tu t'es souvenu de nous à cause de ta propre bonté, Seigneur. Et tu t'es révélé à nous. Seigneur, comment aujourd'hui encore ne pas t'adorer? Comment aujourd'hui encore, Seigneur, ne pas nous soumettre à ta volonté? Seigneur de gloire, qui d'autre comme toi est bon, Seigneur? Nous voyons aujourd'hui, Seigneur de gloire, à travers le monde, Seigneur de gloire, qui nous pousse à la vengeance, qui nous pousse à la concurrence, Seigneur. Mais Seigneur de gloire, toi, tu n'as pas cherché à te venger de nous, Seigneur, alors que nous étions, Seigneur de gloire, des malfaiteurs, alors que nous étions des brigands, Seigneur, alors que nous étions, Seigneur, des infidèles. Seigneur de gloire, tu as manifesté ton amour, tu as manifesté ta bonté. Et c'est vrai, Seigneur de gloire, que si nous pouvons te louer aujourd'hui, Seigneur, c'est parce que tu es bon. Quand bien même, Seigneur de gloire, le problème dans lequel nous nous sommes réveillés ce matin est encore là. Seigneur, ce n'est plus un problème parce que tu es bon et qu'au temps favorable, Seigneur de gloire, tu agiras. C'est pourquoi, Seigneur de gloire, ce matin, nous voulons te bénir, Seigneur, pour tout ce que tu permets. Seigneur de gloire, pour tout ce que nous n'avons pas compris. Parce que nous comprenons maintenant, Seigneur de gloire, que tu es bon, Seigneur. Autrefois, Seigneur de gloire, toutes les épreuves, les temps difficiles, nous ne les comprenions pas, Seigneur. Mais lorsque nous avons vu ta délivrance, Seigneur de gloire, alors nous avons compris que réellement tu étais bon. Seigneur, le peuple d'Israël s'est retrouvé devant la mer Rouge, Seigneur. Les Égyptiens, Seigneur de gloire, arrivaient, Seigneur. Ils n'avaient pas compris, Seigneur de gloire, ce que tu voulais faire, Seigneur. Ils se sont rebellés, ils ont murmuré, Seigneur. Éternel de gloire, mais lorsque tu as ouvert la mer en deux, Seigneur, ils ont connu que tu étais bon. Seigneur de gloire, aide-nous à garder silence, Seigneur de gloire, devant ce que tu permets, Seigneur. Car dans tout ce que tu permets, tu le permets, Seigneur de gloire, dans ta bonté. Aide-nous, Seigneur de gloire, à te faire confiance. Aide-nous, Seigneur de gloire, à ne pas mépriser ta parole, à ne pas nous contenter, Seigneur de gloire, du minimum, alors que, Seigneur, tu es prêt à nous donner le maximum. Seigneur de gloire, le voile du temple s'est ouvert en deux, Seigneur. Tu as envoyé Jésus-Christ, Seigneur de gloire, pour te révéler à l'homme. Tu as envoyé ta parole, Seigneur de gloire. Tu as envoyé des prédicateurs, tu as envoyé des prophètes, Seigneur. Tu as envoyé ta loi. Tu es descendu toi-même, Seigneur de gloire, pour délivrer ton peuple. Parce que tu voulais te révéler à l'homme. Et cette révélation, Seigneur de gloire, et la démonstration de ta bonté. Seigneur de gloire, puisque tu es bon, Seigneur, pourquoi douter de toi, Seigneur? Pourquoi douter de toi, Seigneur? Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, ce matin, apprends-nous encore, Seigneur de gloire, à tout abandonner. Apprends-nous ce matin, Seigneur de gloire, à ne plus résister, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, Seigneur de gloire. Renouvelle notre intelligence qui a été étouffée par la rébellion, Seigneur. Renouvelle notre intelligence qui a été étouffée par le péché, Seigneur. Car aujourd'hui encore, tu pardonnes. Renouvelle notre intelligence, Seigneur, qui a été étouffée à cause de la chair. Afin que nous puissions discerner, Seigneur, tout ce que tu permets dans nos vies. Et que, en finalité, nous puissions célébrer ta bonté, Seigneur. Car, Seigneur de gloire, malgré tout ce que nous pouvons voir, malgré tout ce que le monde peut dire de toi, Seigneur, ce matin, nous avons cette assurance que tu es bon. Même si nous n'avons pas tout compris, Seigneur, nous voulons confesser, Seigneur de gloire, que tu es bon. Dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur de gloire, nous voulons t'adorer ce matin encore, en esprit et en vérité, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Quand bien même les mots nous manquent, Seigneur de gloire, mais nous voulons quand même te le chanter, Seigneur de gloire, afin que notre louange soit devant toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Alléluia.
Oh mon Dieu, tu es bon.
Tu es bon pour moi, tu es bon.
Oh mon Dieu,
tu es bon.
Oh mon Dieu,
tu es bon.
Oh mon Dieu,
tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon.
Tu vas sauver,
tu es bon.
Tu vas délivrer,
tu es bon.
Tu es bon,
tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon.
Tu vas pardonner.
Pour moi, tu es bon.
Tu m'as purifié.
Tu es bon.
De mes iniquités.
Tu es bon.
Tu es bon,
tu es bon,
tu m'as aimé.
Alléluia.